103,5.
En République démocratique du Congo, les détenus de prison et certains centres de détention vivent dans des conditions qui laissent à désirer. Manque de nourriture, promiscuité totale, manque d'hygiène et de soins de santé appropriés. Voilà le tableau que représente aujourd'hui nos prisons à travers tout le pays. Nous faisons aujourd'hui le point là-dessus, d'abord avec Julie Laure, Malivoto, puis ensuite avec Nike Mputu depuis Mbujimayi, pour savoir concrètement comment vivent ces personnes, qu'est-ce qui est fait pour eux, parce que ce sont quand même des êtres humains. Et pour commencer, retrouvons donc Julie Laure qui est déjà avec moi dans ce studio. Bonjour Julie Laure, Malivoto.
Bonjour Nicole et bonjour à tous.
Vous avez été, j'imagine, un peu partout pour faire un état des lieux. Alors, pour commencer, qu'est-ce que vous avez pu constater?
Oui, d'abord, je ferai un état général des conditions des prisons dans le pays. Mmh. Selon le rapport de la Division des droits de l'homme de la Monnaie de l'année dernière, dans l'ensemble, la situation de conditions des prisonniers est pareille. Donc la surpopulation est la règle dans de nombreuses prisons. On se pose la question de savoir pourquoi. Les causes de cette surpopulation sont diverses. Et la principale est le manque de capacité d'accueil dans des établissements pénitentiaires qui restent jusque-là en activité. Car il faut savoir aussi que la grande majorité des prisons ont été construites avant l'indépendance. Mm-hmm. Et certaines sont tombées en ruine et sont fermées depuis plusieurs années aussi. Et dans d'autres prisons construites à l'origine pour héberger juste un nombre précis de détenus, plusieurs bâtiments sont tombés aussi en ruine. Conséquence aujourd'hui, les détenus sont forcés de s'entasser dans les quelques locaux, pavillons et dortoirs encore utilisables. Mmh. D'où, comme vous l'avez dit, la promiscuité qui découle du manque d'espace. Et cela aussi a évidemment des implications sérieuses sur l'hygiène et l'état de santé des détenus.
Voilà, vous avez beaucoup insisté sur le problème de la surpopulation. Hein? Mais est-ce qu'il y a d'autres problèmes qu'on pourrait lier à cela?
Oui, outre ce problème de la surpopulation, le plus grave est celui aussi de la malnutrition. Toujours dans ce rapport de la Division des droits de l'homme de la MONUC, un diagnostic très alarmant a été dressé concernant les conditions des détenus, des détentions des personnes incarcérées et le manque d'alimentation. Mmh. On a signalé de nombreux cas de décès provoqués par la famine. Et puis,
Donc ils n'ont pas à manger.
Ils n'ont pas à manger. Si aujourd'hui ils mangent, demain on ne sait pas ce qu'ils vont manger.
C'est irrégulier en fait.
C'est irrégulier. C'est d'ailleurs le témoignage d'un détenu de Kinsangani.
Nous sommes ici, nous vivons très difficilement. Vous savez, dans toutes les prisons de la République démocratique du Congo, il n'y a pas de bonnes conditions pour vivre. Nous vivons très mal, il n'y a pas de rations. Nous dormons dans des nappes, les difficultés énormes que nous trouvons. Nous n'avons pas l'accès aux soins médicaux.
Ça, c'est un détenu qui a parlé. Hein?
Oui, c'est un détenu de Kisangani.
De Kisangani. Est-ce le même problème que les détenus de Mbujimayi, de Mbandaka, de Kinshasa rencontrent? C'est bien de réagir dès maintenant avec vos SMS. Peut-être que vous avez été voir un ami, un frère, un parent en tout cas, et que vous avez pu constater cela de vos propres yeux. N'hésitez pas à témoigner, hein, parce qu'on en parle aujourd'hui, au 081 070 20 50. Julie Laure, vous avez un autre cas bien précis pour illustrer, je dirais, le problème des détenus ici en RDC.
Oui, à Matadi, par exemple, dans le Bas-Congo, les détenus de la prison centrale vivent dans une promiscuité totale. Leurs conditions de vie laissent à désirer et suite à cela, les uns arrivent même à perdre leur vie, donc à mourir. Il faut dire aussi que la prison centrale de Matadi nécessite pas seulement une prise en charge et une réfection générale de ses locaux, mais aussi une désinfection totale. Nous avons eu à ce sujet un entretien avec Guy Roger Nyampala.
Les conditions dans lesquelles vivent les prisonniers de Matadi laissent à désirer. Du point de vue alimentaire, ces détenus ont une alimentation sporadique. Pour ce faire, les uns sont éparpillés à travers la ville pour demander des aumônes dans des églises et les autres se livrent à des travaux ménagers chez des particuliers.
Et que pouvez-vous dire sur leurs soins de santé?
S'agissant de leur santé, ils ne bénéficient d'aucun soin de santé approprié. La petite pharmacie qui leur sert de secours de temps en temps n'existe plus depuis plusieurs années. Les prisonniers malades sont abandonnés à leur propre triste sort et généralement ils sont conduits à l'hôpital général de référence de Matadi dans un état critique. Et dès là, ils arrivent à perdre leur vie. Selon le gestionnaire de cet hôpital, 4 détenus sur 10 meurent chaque mois dans cette institution sanitaire et des fois même leurs corps font plus de 2 à 4 mois avant d'être inhumés.
Et est-ce qu'existe-t-il de lits dans cette prison?
Il n'existe pratiquement plus de lits dans cette prison. La plupart d'entre eux dorment sur une espèce de natte fabriquée par eux-mêmes et d'autres à même le sol. Il faut dire que ces prisonniers vivent dans une promiscuité totale.
Merci beaucoup, Guirogin.
Merci, Jolie Balimoto.
Les mêmes problèmes qu'on rencontre un peu partout.
Partout
en RDC, le problème de promiscuité, le problème de soins médicaux, le problème d'incarcération, donc finalement partout, Kisangani, Matadi, et même avant ça on a été où exactement?
À Kisangani en fait.
Donc on a les mêmes problèmes.
On
va évoluer, car je crois que il serait bien d'aller dans une autre province pour voir comment ça se passe aussi.
Oui, allons tout de suite dans la province du Kasaï oriental. Mm. Là, les prisonniers vivent dans des conditions très précaires aussi, donc sans nourriture, dépourvus d'infirmerie, pas de vêtements, et l'état des bâtiments est aussi délabré. À ce sujet, nous avons récupéré un élément qu'on a eu à diffuser il y a quelques mois sur les conditions carcérales dans le Kasaï oriental. C'est un entretien que nous avons eu avec Nikem Poutou de Radio Kapim Bujimaï.
Si en Bujimaï, par exemple, les prisonniers se plaignent de passer deux fois deux semaines sans avoir mangé, ils sont vraiment dans des conditions déplorables. Pourtant, il existe une ONG, Fraternité des Prisons, qui gère les vivres de prisonniers. Mais selon ces prisonniers, ils tombent malades en prison et vont mourir à leur sortie parce que les conditions carcérales sont vraiment déplorables.
Et ceux de l'Odia?
À l'Odia, le bâtiment est dans un état de délabrement très avancé. Les prisonniers ont été même délocalisés. Les détenus qui y restent à l'heure actuelle sont ceux qui le souhaitent. Suite à de nombreuses évasions, les autorités préfèrent garder donc les prisonniers dangereux dans les cachots du parquet de grande instance ou de l'auditorat. Ils mangent une fois tous les deux jours ou presque pas parce qu'il n'y a pas de nourriture. Plusieurs détenus tombent malades et d'autres même succombent de suite à cette situation.
Oui, merci beaucoup. Mais que dire sur d'autres villes, toujours du Kasaï oriental?
C'est le même constat sur d'autres villes du Kasaï oriental. Par exemple, à Mouniditou, où certains prisonniers sont également décédés. Au mois d'octobre de l'année passée, de l'année dernière, 6 prisonniers sont décédés parce qu'il n'y a pas d'infirmerie fonctionnelle sur place. Les prisonniers souffrent d'une malnutrition sévère. Et là, ce sont d'ailleurs les hommes de bonne volonté qui les nourrissent. Et c'est là sous l'impulsion des partenaires humanitaires.
Merci beaucoup, Nikki Mputo.
Merci, Jolie.
Voilà, donc encore une fois, on revient à la même situation. Malnutrition, soins de santé non accessibles. Donc tous les problèmes sont rencontrés, tous ces problèmes que rencontrent les prisonniers de Kisangani, les prisonniers de Bujimaï et même...
Oui, ce sont les mêmes problèmes partout.
Voilà. Alors j'aimerais que tous ceux qui ont des réactions à faire, qui n'hésitent pas à nous en parler maintenant, qui n'hésitent pas à réagir maintenant avec leur SMS au 081 070 2050. Est-ce que quelque part en RDC, il y a des détenus qui vivent, qui sont vraiment détenus dans de bonnes conditions, si je dois me répéter. Est-ce que ça existe? C'est ça la grande question. N'hésitez pas à réagir. Hein. Allez, jolie loge, je crois qu'on peut s'arrêter là. Hein.
D'accord, merci beaucoup, Nicole.
À la prochaine.
À la prochaine.
Au Capi, fréquence de la paix.
Et voilà, nous allons retrouver à présent notre invité, Luc Ankin-Brandt, de l'unité d'appui à la justice DDH Monuc, qui est là pour répondre à toutes vos questions, qui est là pour nous dire concrètement qu'est-ce que la Monuc fait à travers son unité, et qu'est-ce que la Monuc fait exactement pour soutenir, si on peut le dire, les détenus de la RDC. Bonjour, Monsieur Luc Ankin-Brandt.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Alors, la première est celle de savoir quelle est votre réaction après avoir suivi le point fait par Julie-Laure Mbalivoto.
Cela confirme un peu le constat que nous avons fait en mois d'octobre dernier à travers un rapport, justement, qui a été établi sur base des visites que nos collègues de la Division des droits de l'homme font dans de très très nombreuses prisons du pays. Mmh. Et le tableau qui a été dressé à travers ces quelques petits reportages décrit bien la situation, la surpopulation, le problème grave de la malnutrition, l'absence de soins de santé, etc.
Enfin, ça, c'était l'année passée, mais cette année...
Oui, eh bien, justement, la situation n'a pas vraiment beaucoup évolué. Il y a encore beaucoup d'efforts à fournir pour que cela change réellement.
Mais est-ce qu'en RDC, il n'y a pas une des prisons où les détenus sont incarcérés, si je dois le dire, dans plus ou moins de bonnes conditions?
Bon, la situation est souvent la pire dans les prisons de province.
Donc à Mbujimayi.
Oui, les prisons de Mbujimayi, Goma, Mwenedictou, Kisangani, etc. Enfin, la liste, on pourrait presque énumérer oui. Presque toutes les prisons en province. Peut-être que la situation, je dirais, est la moins pire à Kinshasa,
au
CPRK, puisque la prison est
et dans la capitale.
Mais oui, voilà, elle est dans la capitale. Beaucoup de personnes ont de la famille, je dirais presque sur place.
Il y a beaucoup d'ONG,
voilà.
Qui osent ici à Kinshasa.
C'est un peu comme dans d'autres domaines. La situation est un peu meilleure, je dirais, à Kinshasa.
Oui, alors on sait que votre unité s'appelle l'unité d'appui à la justice. Qu'est-ce que vous faites concrètement pour aider tant soit peu ces détenus?
Mais donc nous essayons d'abord, c'est la première chose, d'alerter. Hein. Nous attirons l'attention sur cette situation vraiment catastrophique hein, pour précisément mobiliser et susciter les réactions. Alors nous avons aussi dans beaucoup d'endroits, avec d'autres partenaires, fait des petites opérations, des opérations un peu d'urgence, hein, d'appel, à l'aide.
Appel des fonds.
Appel de fonds, appel de nourriture. Hein, parce que parfois, c'est quelque chose...
Ah, vous vous adressez directement aux ONG.
Voilà, nous adressons aux ONG, mais dans des endroits comme Mbujimayi, l'appel a été lancé à la population. Et il y a eu une réaction d'un peu de solidarité.
Vous limitez à faire des appels?
Non.
Vous assistez concrètement, financièrement peut-être, ces détenus?
Bon, nous n'avons pas, nous, en tant que division droits de l'homme de la MONUC, un budget pour faire cela. Ce que nous demandons précisément, c'est que l'État, qui est responsable de la gestion des établissements pénitentiaires, assume sa responsabilité et que l'État congolais fournisse les fonds, les moyens financiers nécessaires pour l'achat de la nourriture pour les prisonniers.
Et puisque ça fait une année, je crois, hein, que le rapport a été publié, vous avez lancé des appels à l'État congolais, au gouvernement congolais, mais rien n'est fait jusque-là. Alors, n'avez-vous pas l'impression que tout ce que vous faites, vraiment, c'est comme si c'était une goutte dans l'océan?
Bon, il faut quand même voir qu'à certains endroits, justement, ces actions d'urgence ont peut-être permis de sauver vraiment des vies, hein, des gens qui risquaient de mourir de faim, que aussi nous essayons de réduire la surpopulation. Ça veut dire que c'est moins de bouches à nourrir. Il y a dans les prisons du Congo beaucoup de gens qui, en fait, ne devraient pas ou ne devrait plus y être. Hein. Et nous avons beaucoup d'actions à ce niveau pour justement faire fonctionner un peu mieux le système judiciaire, hein, de façon à ce que on ne mette pas, par exemple, en prison pour un délit vraiment mineur. Hein. On risque là d'envoyer presque à la mort hein, quelqu'un qui est condamné pour à 6 mois ou 12 mois d'emprisonnement et il risque d'y mourir.
Luc Anquinbron, est-ce que vous avez vraiment l'impression que jusque-là, je dirais, vos actions arrivent à qui de droit? Autrement dit, est-ce que jusque-là, le gouvernement arrive à accepter, arrive à adopter tous les projets que vous avez eu à faire avec lui?
Bon, une proposition principale était que le gouvernement inscrive dans le budget de l'État une allocation hein, des fonds pour précisément le fonctionnement des établissements pénitentiaires et principalement les prisons. Malheureusement, de ce côté-là,
ça n'a pas abouti
jusqu'à présent. Alors, il y a d'autres initiatives, comme par exemple créer dans les prisons ou à côté des prisons des sortes de fermes hein, pénitentiaires.
Qui va construire ça?
Bon, c'est là qu'est un peu le problème, c'est qu'il faut trouver les moyens que l'État congolais ne les a pas, et c'est souvent la communauté internationale qui doit pouvoir financer cela, ou les agences des Nations Unies, etc. Mais avec relativement... Avec relativement peu de moyens, on peut fournir les graines ou des agences des Nations Unies vont pouvoir faire un effort pour fournir les graines, les outils pour cultiver.
Mais ça demande de moyens tout ça, même si c'est avec un peu d'effort. Pourquoi vous n'interviendrez pas directement?
Mais nous, parce que nous n'avons pas malheureusement de budget prévu pour cela, ce n'est pas de fait non plus notre rôle. Mmh. Nous ne devons pas aller jusqu'à nous substituer à l'État et à ses responsabilités.
Mmh. On va donc aller à Mbujimayi où justement il y a une journée de solidarité qui a été faite en faveur des prisonniers. C'est une ONG de la place, hein, je crois, qui a organisé cette journée-là, mais je n'en dis pas plus. Je vais plutôt rejoindre ma collègue, Nike Mputu, afin qu'elle nous dise concrètement qu'est-ce qui a été fait, je dirais, à l'occasion de cette journée et qui a organisé cette journée de solidarité à l'endroit justement des prisonniers.
En Mbujimayi, sur 93,8.
Voilà, on se retrouve donc en Mbujimayi où Nike Mputu est en ligne déjà. Bonjour, Betoabou, Nike Mputu.
Betoabou, Nicole, bonjour, chers auditeurs de la radio Capi.
Voilà, nous savons qu'il y a une seconde journée de solidarité qui a été organisée en faveur des détenus de Mbujimayi et de Moine Ditou en moins de 9 mois. La première avait eu lieu au mois de juillet de l'année dernière. Qu'est-ce qui oblige, je dirais, à ce recours, à la générosité de tout ça? Parce que c'est tout le monde qui a eu à participer à cette action.
Oui, Nicole, ce sont les conditions déplorables de ces deux établissements pénitentiaires. Ils sont vraiment surpeuplés, plus de 290 détenus pour 140 places dans la prison de Mbujimayi, par exemple. Et ces établissements pénitentiaires n'offrent aucune condition sanitaire, pas de source d'eau potable, pas de nourriture pour ceux qui ne bénéficient pas du soutien de leur famille. Et les centres de soins nouvellement ouverts ne semblent pas être opérationnels. Donc, on y manque de tout dans ces centres pénitentiaires.
Mmh. On y manque de tout, mais nous savons que au mois de février dernier, la prison centrale de Mbujimayi a enregistré 5 décès. Hein. Donc, c'est pour dire que vraiment le problème est réel. Hein.
Oui, oui, au mois de février, Nicole, la prison centrale de Mbujimayi a enregistré 5 décès. Toujours le même mois, on a transféré en urgence une dizaine des prisonniers qui souffraient de malnutrition sévère vers l'hôpital. Et ce week-end, au même moment où le gouvernorat de province, la MONUC et les autres acteurs impliqués organisaient cette journée de solidarité en faveur de prisonniers, il y avait deux autres prisonniers qui décédaient. Au total, 15 prisonniers sont décédés depuis le mois de septembre de l'année dernière jusqu'à ce jour à Mbujimayi et une dizaine à la prison centrale de Moine Ditou. Écoutons donc le témoignage du directeur de la prison de Moine Ditou. Il s'est plaint de détention, des conditions de détention à la prison centrale de Moine Ditou.
Les conditions sont mauvaises parce qu'ils n'ont pas à manger depuis belle lurette. Ça remonte du mois de mi-décembre jusqu'à ce jour. Ils ne sont pas nourris. Ils vivent dans des conditions très, très bizarres. C'est parfois des familles qui amènent peu de vivres, qui sont partagées. Bon, une boule pour peut-être 3-4 personnes. C'est la famille qui prend en charge, mais quant aux organismes comme l'État aussi, personne n'intervient.
Mmh. Et je pense que ces établissements ne sont pas les seuls. Hein. Donc, au niveau de la prison centrale de Moine Ditou, il n'y a pas que la prison centrale de Moine Ditou, il y a aussi d'autres prisons, je crois, où les conditions ne sont pas acceptables.
Effectivement, Nicole, selon le dernier rapport de la section des droits de l'homme de la MONUC, publié il y a une dizaine de jours, ce sont toutes les prisons de la province qui sont dans un état de délabrement très avancé. À Kabinda, par exemple, les prisonniers coupent et vendent de la paille pour survivre, pour s'attraper ne fût-ce qu'à manger, et le directeur de prison les libère pour cela. Il y a même des évasions qui ont été enregistrées. Et là, tout cela, c'est seulement à cause de ces conditions de détention vraiment déplorables.
Mmh. Et si nous comprenons bien, les conditions sont tellement précaires et les autorités manquent, je dirais, de moyens qu'elles ont recours aujourd'hui à la générosité de la population. Qui gère exactement cette assistance dans les prisons du Kasaï?
C'est l'ONG Fraternité Internationale des Prisons qui est chargée de gérer les ressources collectées. Depuis la première journée de solidarité, un comité composé de la direction pénitentiaire, du chef de division de la justice et un représentant de la société civile, y compris également la MONUC, suit également les activités.
Mmh. Est-ce qu'il y a des mesures, je dirais, imaginées pour une prise en charge durable de ces détenus?
Nicole, l'ONG Fraternité Internationale des Prisons a proposé en décembre dernier que les prisonniers participent à la culture d'un chant, mais ce chant a été réalisé grâce à une main d'œuvre de la population locale. Ce n'étaient plus les prisonniers qui avaient participé à l'élaboration de ce chant. Donc, écoutons le directeur de cette ONG, Claes Chimbagé.
Les actions que nous pouvons faire, ce sont des actions qui sont ponctuelles et toujours dans la recherche de solutions. Nous avons raisonné ensemble. Nous avons un projet que nous avons déposé à la MONUC qui a été financé par la MONUC conjointement avec la FAO. C'est un projet de champs de maïs et de soja qui est en Anajuka. Et nous espérons qu'avec ce projet, avec ce maïs, nous arriverons quand même à pouvoir freiner ce taux de mortalité. Et puis, en dehors de ça, nous avons mis sur pied, il y a 2 semaines à peu près, un dispensaire qui va pouvoir s'occuper de la prise en charge sanitaire des prisonniers qui sont à la prison centrale. Disons que pour une action durable, une action qui va freiner les taux de mortalité, il faut que l'État parvienne à pouvoir prendre ses responsabilités pour nourrir les prisonniers. Parce que nous, on ne va pas aller souvent auprès de la population pour pouvoir commander comme si nous ne sommes pas gouvernés.
Et voilà, Nicky Mputu, je crois qu'on peut s'arrêter là pour aujourd'hui, hein, en tout cas en ce qui concerne l'état des lieux de Mouneditou ainsi que les autres prisons du Kasaï oriental. Hein.
Oui, Nicole, il y a quelque chose à ajouter peut-être. Mm. C'est un rappel pour dire que ce champ n'a pas encore donné une récolte jusque-là pour nourrir les prisonniers de Mouneditou ni de Mbujimaï.
C'est depuis quand en fait qu'on a essayé de faire un champ pour les prisonniers? C'est depuis quand?
C'est depuis décembre, l'idée c'était depuis décembre dernier que les prisonniers devaient normalement participer à cette culture de chant.
Oui.
Ça a été financé, comme le directeur de cette ONG l'a déclaré, par la MONUC en collaboration avec la FAO, mais jusque-là rien encore n'a été récolté.
Merci beaucoup hein, Nicky Mputu pour ce point. Tosa Kidila et à la prochaine.
Merci Nicole.
Okapi, c'est vous. Et oui, Okapi, c'est vous. Et c'est bien de réagir à travers vos SMS au 081-070-2050. On a déjà une dizaine de réactions ici dans ce studio. Continuez à le faire parce que notre invité Luc Ankimbrandt est toujours là. Hein. Il est de l'unité d'appui à la justice de la division droits de l'homme, MONUC. Et il est là pour répondre à vos questions. Vous avez suivi tout à l'heure, Luc Ankimbrandt, le point de Nicky Mputu, notre consoeur de Mbujimaï. La MONUC soutient, essaie en tout cas de soutenir quelques détenus là-bas dans le Kasaï oriental à travers des chants, hein, la culture des chants. Mais juste oui. Là, ça ne donne pas un résultat bien précis. Hein.
Bon, c'est le début, mais justement, ce qui est important, c'est ce que vient de dire un des intervenants là, de l'ONG de Mbujimaï.
Fraternité.
Voilà, Fraternité des prisons. Qu'ils ne peuvent pas éternellement quémander auprès de la population une aide. Hein, on peut faire ces opérations, ces appels, et c'est vraiment très important que la population et tous ceux qui sont concernés, les commerçants, etc., répondent hein, à cet appel à la solidarité qui est lancé aujourd'hui pour la prison de Mbujimaï. Mais il dit lui-même que ce n'est pas cela une solution
durable. C'est pas ça qu'il devrait se faire.
Hein, voilà. Et il pointe les deux choses qui doivent être faites. Il dit il y a la responsabilité de l'État. L'État doit absolument dédier un certain nombre de moyens pour l'alimentation des prisonniers. Et puis une autre solution durable, ce sont ces champs, hein, ces cultures. Mais on peut faire aussi de l'élevage.
Seulement depuis décembre.
Hein. Voilà, Mbujimaï, c'est une initiative assez récente. Des projets comparables sont en train de naître à différents endroits, à Goma.
Il y a encore beaucoup à faire pour eux.
Il y a beaucoup à faire. Il faut notamment aussi que, justement, l'État qui possède les terrains, souvent autour de la prison, ou parfois dans des endroits un peu plus éloignés, mettent vraiment ces terrains à la disposition de la prison pour que les prisonniers puissent les travailler, puissent y faire des cultures, et produire du maïs, du soja, etc.
Mais ça viendra peut-être avec le temps, hein, parce que bon, beaucoup de gens se disent, ces gens, ils ont tué, ils ont volé, alors bon, mieux vaut qu'ils soient abandonnés à leur triste sort, même le gouvernement peut-être se dit la même chose. Alors, quels sont les droits finalement des prisonniers dans le monde?
Oui, ce n'est justement vraiment pas acceptable, hein, de considérer quelqu'un qui a été condamné comme un sous-homme qui n'a plus droit à la vie. Non, il a fauté, il a été puni, il doit faire subir cette punition qui est être privé de liberté, mais il ne doit pas être condamné de fait à la mort par la faim.
Ils ont droit aux soins de santé?
Alors oui, il y a un ensemble de règles. Hein,
ils ont droit à une bonne alimentation?
Voilà, tout ça est contenu dans ce qu'on appelle l'ensemble des règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus. Hein. C'est un texte d'une trentaine d'articles qui passe en revue tout ce qui doit être fait en matière justement d'alimentation, de locaux, de soins de santé, de contact avec l'extérieur, etc.
Et c'est le gouvernement qui devrait le soutenir, et non les OMC ou la population.
Et bien sûr, ce sont la responsabilité des États, des gouvernements, hein, de respecter ces règles minima, et malheureusement, on en est loin en RDC pour le moment.
Peut-être qu'avec votre soutien, l'unité d'appui à la justice de la division de droits de l'homme, on pourrait aller de l'avant. Je vais lire quelques réactions des auditeurs qui sont arrivés ici dans ce studio, notamment la réaction de Makonga depuis Goma, dans le Nord Kivu, qui dit « Qu'est-ce que la MONUC fait pour relever ce défi majeur ?» C'est la première question qui vous a été posée. Autre réaction de Mboko Saïdi Laurent de Bukavu qui dit « Si les détenus étaient occupés à des travaux manuels, ne pourraient-ils pas assurer leur auto-prise en charge ?» Voilà une question, une proposition qui n'est pas à ignorer. Troisième proposition de Mouata depuis Kananga qui dit « Les arrestations arbitraires dans notre pays sont monnaie courante. Beaucoup de nos magistrats cherchent seulement un discrédit ou tout simplement une vengeance. Même un candidat à la présidence vient d'être victime. Où est le sérieux dans ce pays ?» nous dit Mouata depuis Kananga. Partout en RDC, les prisons sont des mouroirs du fait que même la justice ne reconnaît pas les droits des prisonniers, nous dit Kapongo depuis Kananga. Je connais toutes les prisons de la RDC, nous dit Florent de Kabongo. Les mauvaises conditions de détention constituent une peine additionnelle qui ne dit pas son nom. Karine de Colézy nous dit qu'à son passage de Mbujimayi, elle a vu des choses impossibles. Qu'est-ce qu'elle a vu exactement? Elle a vu des selles, nous dit-elle, étaient pleines. En tout cas, le flux des selles était plein, nous dit-elle, et ça se déverse sur les prisonniers qui y vivent tous les jours. Donc, il y a un problème, je crois, de détention à ce niveau, un problème d'hygiène, nous dit Karine. Combien de prisons, nous différons après... Combien de prisons avons-nous après 1960? Donc des prisons qui ont été construites après 1960, à part tous ces bruits, et certains ont dit que ces derniers lieux... En fait, la question n'est pas précise, mais en tout cas, je retiens une chose, c'est que cette personne, Pierrot Camoy, soit un peu plus précis dans vos questions, nous dit, nous demande combien de prisons ont été exactement construites après 1960. On va d'abord se limiter par là, afin que vous puissiez répondre à ces questions qui ont été posées par nos auditeurs.
Oui, merci. Tout d'abord, qu'est-ce que la MONUC fait?
On
en a déjà un peu parlé, à travers justement ce que fait la division des droits de l'homme. La première chose, et je répète, c'est important, c'est justement que nous surveillons et que nous faisons ce qu'on appelle le monitoring des prisons, et que par ce fait-là, nous sommes parvenus à attirer l'attention. Si ce type d'émission a lieu aujourd'hui, si des actions de solidarité sont lancées, etc., c'est un peu grâce à ce travail de visite des prisons et de dénonciation des mauvaises conditions. Alors, nous encourageons et nous organisons avec d'autres partenaires des actions d'urgence, comme celles qui se déroulent, par exemple, à Mbujimayi, et il y en a eu à d'autres, endroits. Nous faisons la pression sur le gouvernement pour qu'il adopte hein, les mesures nécessaires pour assurer le minimum hein, de subsistance, je dirais, aux prisonniers.
Et à propos des arrestations arbitraires?
Alors voilà, nous avons aussi toute une action vers les magistrats qui vise, par exemple, d'abord en ce qui concerne les prisons, à diminuer, pourrait-on dire, la détention illégale ou la détention irrégulière. Il y a beaucoup de personnes qui sont en prison pendant des mois, même des années, avant d'être présentées à un juge. C'est une violation d'un des droits.
Mais qu'est-ce que vous faites concrètement pour faire face à cela?
Concrètement, nous rencontrons les magistrats, nous allons parfois avec eux dans la prison, nous attirons leur attention sur tous ces dossiers de prisonniers.
Et est-ce qu'il y a un changement après votre départ?
Bon, il y a dans pas mal d'établissements pénitentiaires des prisonniers, des prévenus, comme on les appelle, puisqu'ils sont en détention préventive, hein, qui voient leur dossier examiné alors par le tribunal ou par le magistrat qui fait l'enquête sur le crime qu'aurait commis cette personne, etc. Et donc nous contribuons à accélérer en quelque sorte.
Mais
bien sûr, il faut aussi savoir que tous les problèmes sont liés. S'il y a trop de prisonniers, et notamment en détention préventive de durée exagérément prolongée, c'est parce que le système judiciaire congolais lui-même ne fonctionne pas bien.
C'est ça, il y a un auditeur d'ailleurs qui l'a reconnu, voilà. Il y a beaucoup de magistrats qui se vengent à travers les détenus.
Bon, il peut y avoir aussi, le fait à beaucoup d'endroits, c'est qu'il n'y avait pas assez de magistrats. Bon, certains tribunaux ne peuvent pas fonctionner parce qu'il n'y a pas de juges, ou le nombre de juges suffisant. Nous avons insisté sur cela, et là, un résultat a quand même été obtenu de la part des autorités congolaises. Hein, le ministre de la Justice, je pense que c'est au mois de janvier de cette année, a pris un arrêté pour déployer un bon nombre de magistrats vers surtout l'intérieur du pays, et aller là-bas où il manquait de magistrats.
Évoluons, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, hein. Il y a beaucoup de gens qui vous posent des questions et qui attendent des réponses.
Alors les arrestations arbitraires, c'est un peu un autre problème que les prisons, puisque ça se situe plutôt au niveau
des cachots.
Oui, nous venons de le souligner dans un autre rapport hein, qui a été publié il y a 15 jours sur les arrestations et les détentions dans les prisons et cachots de la RDC, et sur la légalité de ces arrestations. Ça mériterait une émission.
On en reparlera alors avec vous. On en reparlera juste pour vous dire que, parce que les réactions je n'ai vraiment trop dans ce studio, vraiment, je suis désolée, mais on ne peut pas tout lire aujourd'hui, on en reparlera, vous avez suivi Lucas Klimbrand, il reviendra certainement prochainement pour faire le point là-dessus également. On va juste terminer par les dernières réactions de Bounia, qui nous dit que, même ici à Bounia, les prisonniers, c'est Raymond Bamara qui le dit, hein, il nous dit que les prisonniers vivent dans une condition extrêmement grave, l'un est mort après avoir mangé des haricots avariés, à Kolwezi, les prisonniers sortent avec des grossesses obtenues là-bas, pourquoi? Donc ça aussi c'est un autre problème qu'on pourrait peut-être débattre avec vous prochainement. Les conditions carcérales en RDC sont très déplorables. Par exemple à Kolwezi, les cachots sont toilettes. Ils utilisent parfois dans ces derniers. Je ne sais pas ce qu'il veut dire par là, mais bon, je crois qu'il sera plus précis prochainement. Parfois, lorsque vous voulez amener à manger, on vous oblige à payer 500 francs. Est-ce que cela est mentionné dans la loi congolaise? Nous demande Jacques Amouleté depuis Kolwezi. On termine avec la dernière réaction de Bertino Makonda depuis la Suisse, à Basel, qui dit « Y a-t-il un budget voté pour les prisons ici en RDC ?» Une question peut-être à laquelle vous pourrez répondre. Est-ce qu'il y a un budget que le gouvernement a voté pour...
Il y a eu des fonds qui sont uniquement prévus pour le CPRK de Kinshasa.
Uniquement pour le CPRK? Voilà. Pourquoi seulement pour le CPRK alors qu'il y a d'autres prisons?
C'est bien là la question qu'il faut poser au gouvernement.
Mais vous avez certainement posé la question.
C'est anormal et les autorités congolaises reconnaissent hein, ce tableau. Ils disent que c'est honteux qu'ils sont eux-mêmes.
Vous pouvez avoir une idée sur ce budget qui a été voté pour la prison?
Je n'ai pas le chiffre exact sous la main.
Plus ou moins, juste une idée.
Vraiment, là, je risque de dire...
C'est difficile. On en reparlera, lui, tant qu'il grande. En tout cas, on s'arrête là pour aujourd'hui, parce qu'il est bon quand même qu'on s'arrête, hein, mais on en reparlera. Je rappelle que vous êtes de l'unité d'appui à la justice, division droits de l'homme de la MONUC. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et à la prochaine.
Merci aussi.